j'aime beaucoup Montpellier, donc je pense que comme pour toute chose ou personne qui vous attire, on y pose un regard particulier, un regard peut-être plus lent que la plupart des personnes. Je ne traverse pas la ville, je m'y pose vraiment. De même que j'aime, par exemple, me poser en terrasse et observer le comportement des Montpelliérains ou des touristes. J'aime beaucoup ce regard-là, oui.
Se balader.
Flâner.
Se perdre.
Des rencontres à travers l'Hexagone.
Des histoires de voyage.
La France baladeuse. Le podcast d'Origine Contrôlée.
Jeune et innovante, Montpellier a toujours été l'une des villes les plus magnétiques du sud de la France. En 20 ans, la capitale héraultaise a connu une véritable transformation, mais elle cultive toujours un certain art de vivre, mélange de décontraction, de fête et de dolce vita. Les artistes et les créateurs sont nombreux à choisir Montpellier, séduits par sa riche scène culturelle et son tempérament exubérant. En compagnie de Jeanne, blogueuse d'origine nîmoise, je te propose de découvrir la facette créative de Montpellier, le temps d'une balade dans l'Écusson. Nous irons ensuite à la rencontre de Thibaut, dans son atelier du quartier Figrolles. Ce jeune wood designer crée des paysages féeriques à partir de différentes essences de bois brut. Enfin, je rejoindrai Boris, le temps d'une balade sur la promenade du Pérou. Nous évoquerons ensemble sa vision de Montpellier, son étonnante passion pour l'encre de Chine. Je m'appelle Paul Angèle et tu es en train d'écouter La France baladeuse.
Je m'appelle Jeanne, je suis montpelliéraine d'adoption. Je suis née à Nîmes dans les années 60. Montpellier est une ville qui m'a toujours attirée depuis mon enfance. Et j'ai toujours ce souvenir d'une ville lumineuse, accueillante et truffée de petites rues. Et c'est vraiment ce qui m'a attirée le plus dans cette ville. J'aime partager en fait ce qui me paraît à la fois soit beau, insolite ou exceptionnel. Et j'ai toujours ce désir de mettre en lumière soit des talents cachés ou des lieux secrets. Voilà, j'aime bien aller un petit peu fouiller dans le Montpellier, que ce soit par rapport à des personnalités ou des activités. J'ai choisi de démarrer cette balade urbaine sur la place de la Canourgue, qui est pour moi, on va dire, ma place fétiche. C'est, pour la petite histoire, la plus ancienne promenade publique de la ville. Il fait très bon y passer un moment. En fait, elle est bordée de micocouliers qui donnent au beau jour juste l'ombre qu'il faut pour s'y sentir bien. La place de la Canourgue est située à deux pas de la cathédrale de Montpellier, qui est un des bâtiments religieux emblématiques de la ville. Cette place, en fait, est aménagée dans son centre avec un joli jardin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui donne aussi son cachet, en fait, à cette jolie place, ce sont les hôtels particuliers qui l'abordent. À l'heure du brunch ou du déjeuner, ou même pour prendre un verre dans l'après-midi, j'aime bien me poser chez Napoléon Dynamite, qui est un café qui propose tout un tas de bonnes choses à boire ou à déguster. Et la terrasse y est juste très agréable. Voilà au quartier Sainte-Anne, au pied de l'église Sainte-Anne, qui est une église néo-gothique, mais qui est à présent désacralisée. De grands artistes comme Garouste ou Hervé Di Rosa y ont exposé. J'ai beaucoup aimé venir voir l'expo d'Otoniel en 2017. Le côté majestueux de l'enceinte de cette église donne beaucoup de relief aux œuvres qui sont présentées à l'intérieur. Face à l'entrée majestueuse de l'église Sainte-Anne se trouve le conservatoire à rayonnement régional, conservatoire de musique, de danse et de théâtre, qui a sa propre programmation culturelle. Un lieu qu'il est très intéressant de fréquenter et qui se situe sur l'emplacement de l'archevêché. Donc à nouveau, un lieu historique et intéressant à découvrir à la fois. Juste à quelques mètres sur la même façade, on passe d'un bâtiment historique à une œuvre de street artiste, Monsieur BMX. En fait, c'est un street artiste de la région qui a démarré sa première installation il y a quelques années en choisissant de coller un objet qu'il aime beaucoup, son BMX. La petite histoire ou la légende raconte que la première fois qu'il a créé cette installation, il s'est en fait déguisé en électricien de façon à ne pas se faire choper de façon intempestive. À Montpellier, il y a de nombreux street artistes comme Sun Ra ou Oops ou encore le street artiste Mist ou dans la catégorie plus féminine Crying Sailor qui nous fait comme des sortes de clins d'œil au détour des rues avec ses œuvres entre guillemets brodées. J'aime beaucoup découvrir toutes ces créations. Donc on se retrouve toujours en plein cœur de l'Écusson, à deux pas de la préfecture, au Hall Castellane, un bâtiment remarquable étant donné qu'il fait partie des plus anciens marchés à structure métallique, un peu comme le pavillon Baltard à Paris. En y entrant, on voit que c'est un marché à dimension humaine. Il a été récemment rénové et du coup a gagné en luminosité. Il est très agréable. On y trouve forcément tous les étaliers classiques d'un marché. L'intérêt de celui-ci, c'est d'y trouver forcément de très bons produits locaux. Ce que j'aime bien, c'est le petit rituel d'aller choisir ses propres produits à l'intérieur du marché et aller ensuite se poser en terrasse en commandant soit au bar ou chez le caviste un petit verre de vin ou pourquoi pas une bouteille de rosé à prendre à la fraîche. En terrasse, vous pourrez observer la façade assez typique parce que très ancienne de la droguerie Estoul, qui est un établissement connu des Montpelliérains. Et remarqué par les touristes, il se dégage de son enseigne, de sa façade et de l'intérieur de la boutique une atmosphère particulière. On voit qu'elle a traversé le temps. La spécificité en fait de cette droguerie, c'est que ses propriétaires ont au fil du temps glané des objets venant de différents salons ou pays qu'ils ont pu visiter. Ça apporte un charme particulier à l'établissement qui doit, je crois d'ailleurs malheureusement, bientôt fermer. Mais je pense qu'il continuera à exister par les différents objets qu'on peut retrouver dans les intérieurs montpelliérains. On se retrouve donc en plein cœur du quartier Saint-Roch, qui a en son centre une église du XIXe siècle. Elle tient son nom du Saint-Roch, qui était le patron à la fois des pèlerins et des pestiférés. Depuis l'église Saint-Roch, en fait, il y a tout un dédale de petites ruelles. J'aime beaucoup m'y balader. Je trouve que c'est là aussi que je découvre souvent mes petites pépites ou mes petites adresses que je recommande sur le blog. On y trouve souvent des personnes qui ont un contact plutôt sympathique parce qu'elles sont passionnées par les objets ou produits qu'elles diffusent. Cela correspond la plupart du temps à leur propre sélection et je trouve ça intéressant. Je te propose, si tu veux maintenant, Paul, d'aller à la rencontre de Thibaut Mallet, un des talents que j'admire et que j'ai découvert récemment. Thibaut est en fait designer et woodmaker, c'est-à-dire qu'il conçoit des objets en bois. Il a un parcours d'ébéniste. Je pense que ce sera intéressant de lui poser quelques questions.
Ok, mais écoute, je te suis. On y va, c'est parti.
Ouais, en fait, c'est très lié à l'enfance, voilà, dès qu'on entend le haut, c'est comme Lego, Duplo, etc. Et le museau, c'était pour le lien avec les animaux, tu vois, le museau de l'animal. Donc ça, c'était le premier prototype, donc maintenant, ils sont faits que dans ce bois-là. Mais après, le but, c'est de mélanger les animaux entre eux et de créer des formes, tu vois, on peut vraiment tout échanger. Et il y a une girafe aussi à côté, donc le but c'est d'acheter les trois et puis de changer son nom. Voilà. Mm-hmm. Et puis ça crée des dinosaures, des animaux hybrides. Voilà.
Je m'appelle Thibaut Mallet et voilà, je suis designer ébéniste installé à Montpellier. Ça fait 3 ans que j'ai ouvert mon propre atelier dans le quartier de Figueroles à Montpellier. Je travaille le bois, je fabrique des jouets, je fabrique des sculptures en bois, des objets de décoration, des objets pour la table. Plus d'objets uniques, on va dire, qui sont entre la sculpture et l'objet de collection. Voilà, des figurines en bois qui sont à collectionner ou qu'on peut juste afficher sur ses étagères. Mon parcours est un petit peu particulier puisque j'ai commencé à faire des études dans le design d'intérieur. J'ai un peu grandi dans ce milieu du bois, de l'atelier. Et après 2-3 ans, après mes études, j'ai décidé de relier ce parcours de design en fait, que je voulais mêler à l'artisanat. Et donc aujourd'hui, je mélange un petit peu les deux. Donc je fais de la conception d'objets et je le fabrique moi-même. Donc c'est de l'auto-édition. Je me suis rendu compte en fait que la plupart de mes projets sont arrivés parce que j'avais un besoin de l'avoir chez moi en fait. Je faisais des étagères pour les vélos, pour gagner un peu de place à l'intérieur. Et donc l'idée, elle vient souvent d'un besoin personnel en fait. Donc je me fabrique un meuble aux dimensions de mon appartement et après ça, voilà, il y a une idée qui arrive en me disant ben, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. Après tous les autres projets qui sont plus décoratifs, tels que les figurines ou les petits paysages que je fais en miniature, c'est plus des projets qui sont liés à mon enfance. Enfin, depuis l'âge de 10 ans, je fais des petites maquettes comme ça que je vendais aux amis de mes parents. Et donc, je crois que c'est quelque chose que j'ai depuis un moment. Quand je fais le bilan de tous mes projets, il y a toujours cet aspect un peu ludique, enfantin. Enfin, les choses qu'on, les animaux dont tu parlais, c'est des figurines qui sont articulées avec des aimants qu'on peut démonter, remonter entre... Enfin, on peut assembler plusieurs pièces pour faire d'autres animaux. Donc, il y a toujours cet aspect lié à l'enfance, en fait. Et c'est des objets qui sont destinés aux adultes, mais aussi aux enfants. Donc, c'est des jouets, sculptures, en fait. Bah, je suis pas mal inspiré par le design scandinave dans sa globalité, on va dire, par tout le minimalisme, en fait, que ça évoque. Et c'est vraiment une réelle volonté, en fait, pour moi, d'épurer au maximum tous mes projets. Donc, c'est pour ça que sur le projet des paysages, par exemple, il y a un seul et unique matériau. Il y a du bois. Je ne mélange pas les essences de bois entre elles. J'essaye de créer des objets qui sont assez clairs. En fait, je travaille très peu de bois foncé tel que le noyer, qui justement réfère à un artisanat un peu plus ancien. Donc, je le mélange aussi avec des matériaux assez contemporains aussi, tels que le laiton. Tu vois, je mélange des bois avec du laiton, avec du verre, etc. C'est ce mélange-là qui est important pour moi, d'avoir quelque chose de très contemporain, minimaliste, avec des lignes très simples. Les figurines dont je parlais tout à l'heure, c'est, voilà, ça réfère à l'origami aussi, le design japonais, d'avoir des formes très lisses et très épurées, en fait. Alors, le projet des paysages miniatures est venu assez tôt. En fait, ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai ce projet-là dans la tête. Je m'inspirais des voyages que j'avais faits, que ce soit au Canada ou en Amérique du Sud. C'est basé sur des immenses forêts ou des énormes montagnes que j'avais vues pendant ces voyages. Et du coup, je voulais les retranscrire en sculpture, comme une carte postale, en fait, mais en relief. Et je suis assez fasciné par toutes les cabanes dans les arbres, les cabanes perdues dans la forêt, etc. Donc je voulais mélanger un peu cette passion-là que j'ai personnellement et mélanger ça avec les souvenirs de voyage. Et puis voilà, j'ai commencé à les partager. J'ai vu que les gens réagissaient bien. Donc voilà, j'ai commencé à en faire un. À chaque fois, je fais un petit prototype, je le montre en photo, je le montre sur les réseaux. Et donc ça permet d'affiner aussi la conception en elle-même du projet.
De ce crayonné, je sais quelles formes, quelles parties vont être les plus sombres, quelles parties vont être les plus claires. Déjà. Alors souvent quand je dessine comme ça, un peu instinctivement et tout, il y a souvent des corps ou des parties de corps qui arrivent, en fait. Alors, je m'appelle Boris Renaudet. On peut m'appeler aussi Boris Abel. C'est mon pseudo d'artiste, en fait. Je viens de Châteauroux, dans l'Indre. J'ai une petite fratrie, en fait. J'ai un grand frère. Et sinon, j'ai une très grande famille. J'ai à peu près, on va dire, 24 cousins, cousines. Et presque autant, donc les tantes, ouais. Et c'est une tribu qui est festive, très aimante. Donc j'ai vécu toujours là-dedans, depuis petit. Et tous les week-ends, on était toujours ensemble, chez ma grand-mère. C'était toujours des fêtes, des barbecues, des grands repas de famille, de la musique. Mes parents, ils m'ont beaucoup soutenu depuis que je suis petit, en fait, à faire des activités extrascolaires, des activités artistiques, notamment. Ça me plaisait beaucoup plus, en tout cas, que de faire du sport, même si j'en ai fait quand même. Hein. J'habitais dans un quartier, le quartier Saint-Jean, dans une ZUP, la ZUP 1 de Châteauroux, parce qu'il y avait la ZUP 1 et la ZUP 2. Et à la ZUP 1, il y avait un truc qui était super, c'était la Maison pour tous. Et à la Maison pour tous de Châteauroux, là, c'est clair qu'il y avait pléthore mes choix d'activités. Donc, j'allais faire du dessin, de la danse, du modelage. Alors, j'ai choisi de t'amener dans les jardins du Pérou. J'aime beaucoup cet endroit parce que, justement, c'est le point culminant. Et ce qui est génial, c'est le panorama. Le panorama, tu peux voir les Cévennes, le Mont Lortus, le Pic Saint-Loup. Tu te retournes, il y a le Canigou. Coucher du soleil, c'est excellent parce que c'est plein ouest. Et c'est aussi un lieu de contestation. C'est le départ de beaucoup de manifestations, notamment la Gay Pride, par exemple. Donc, c'est le départ. On fait beaucoup la fête aussi là-dessus, sur cette place. Il y a aussi des concerts. Enfin, c'est une place multifonction qui sert vraiment à tout. Donc, je pense que c'est un lieu important de Montpellier. C'est à la sortie du centre historique, donc de l'Écusson. Tout à l'ouest, il y a une ancienne porte. Maintenant, c'est un arc de triomphe. Il y a des grandes grilles devant, dorées. C'est très beau. Tu arrives dans le parc, tu as une grande allée centrale. Au milieu de cette allée centrale, il y a une statue équestre qui représente Louis XIV. Pour l'anecdote, d'ailleurs, elle est deux fois plus petite que l'original parce qu'à la Révolution, elle a été fondue. Et tu en remets une après, par la suite.
Surface de l'eau. Après, je vais laisser se diffuser.
Ah ouais, ça suit vraiment la forme en fait que toi t'as décidé au départ.
Voilà.
Ah oui, donc là, ça me parle quand tu dis je domptais la tâche.
Tout à fait, c'est ça. Donc là, tu vois, j'ai envie que d'en faire ici. Là où je vais mettre de l'eau. Après, il faut que je fasse attention. Bon, là, le papier est celui-ci, un peu fin. Je vais vite onduler. Après, j'ai des petites techniques où j'appuie à certains endroits. Pour diriger. Aussi. Je peux diriger à certains endroits. Et pour pas que ça ça parte de ma tâche en début.
Après le lycée, j'étais à la fac en histoire de l'art. Et bon, là, je me suis vite rendu compte que c'était pas trop mon truc. Ce que je voulais, moi, c'est utiliser les crayons, certes, mais pour dessiner, en fait. Alors, j'ai eu l'opportunité de passer un concours pour entrer en brevet des métiers d'art, graphiste décorateur, avec une option peintre en trompe-l'œil. Et ensuite, du coup, ça m'a amené à travailler par la suite pour des particuliers. Donc, je me suis lancé un peu tout seul. Donc, j'ai eu quelques clients. Et après, j'ai travaillé pour des ateliers, notamment un atelier qui s'appelle Afresco, qui est à Vienne. Et avec cet atelier, d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a réalisé d'ailleurs une fresque, un ensemble de 250 fresques en tout.
et donc tout le parking souterrain sur 4 niveaux est recouvert entièrement de fresques. Ça représente 250 personnages français triés sur le volet. Un jour, en fait, j'avais plus énormément de chantiers, donc j'ai répondu à une annonce de peintre restaurateur pour les monuments historiques. Donc je me suis retrouvé du coup à travailler dans des églises, des abbatiales, le palais de justice de Montpellier aussi, avec, pour la restauration des plafonds de, des cours d'appel. Pour parler de mes sources d'inspiration, il y a un artiste contemporain que j'aime beaucoup, c'est Varini. Donc Varini, il peint sur des monuments, des œuvres immenses, et sur le principe de l'anamorphose. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, par exemple, il a travaillé au Palais des Papes, il a travaillé au Grand Palais à Paris, à Nantes. Souvent, il travaille avec une seule couleur. Et là, il a travaillé sur toute la ville, presque, ou sur une demi-ville, ou sur un château entier. Et on retrouve une image, c'est souvent géométrique. Soit il fait des pointes, soit des ronds, ou des cercles inversés. Et là, on n'a qu'un d'un seul coup, en se déplaçant petit à petit, on voit une image qui apparaît dans le paysage, comme si elle était superposée, plaquée, comme s'il y avait une photo devant le paysage ou devant l'œuvre. C'est le principe de l'anamorphose, et ça, je trouve ça spectaculaire. En fait, j'ai travaillé longtemps, du coup, la couleur, que ce soit pour les trompe-l'œil ou pour la restauration. Et j'avais envie de revenir à quelque chose d'un peu plus fondamental, quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. J'ai essayé plusieurs médiums, et un médium qui m'a bien plu, c'est l'encre de Chine, en fait. Tout ce qui est figuratif, c'est vrai que je le vois un petit peu comme un métier, comme ma profession qui me suit depuis longtemps, mais qui ne me permet pas vraiment de m'exprimer, d'exprimer le fond de mes pensées, en fait. Là, le travail avec, avec l'encre, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Quand je veux commencer un travail personnel, je commence toujours par dessiner. En fait, j'essaie d'exprimer plus des émotions, donc ça passe pas forcément par du figuratif, pas du tout. C'est pour ça que l'encre, ça m'aide beaucoup, en fait. Et j'ai remarqué aussi, c'est comme une envie de dompter les tâches. Je vais apposer du noir, de l'encre. Je pose de l'eau à l'endroit exactement où je veux que les tâches se diffusent. Et après, avec le stylo, je viens le raccrocher à des espaces vides, en fait. Comme si je voulais un peu mêler les espaces vides avec les espaces pleins. En fait, il y a un côté organique. Hein. Il y a un côté organique et il y a un côté rêverie. Alors, en fait, la technique du clair-obscur, c'est le fait, du coup, d'intégrer des parties sombres, des parties très sombres et des parties très claires dans un tableau, une peinture, un dessin, un lavis ou même la photographie. Au milieu du lavis, il y a un espace pas travaillé, donc il reste blanc, le blanc du papier. D'ailleurs, le papier a une énorme importance, le grammage, la finesse, c'est un choix bien précis. Et ensuite, après, autour, je viens mettre du noir assez profond. Donc c'est la relation entre les deux qui fait que ça peut être un clair-obscur.
Boris, que tu viens juste d'écouter, est l'artiste qui illustre chaque épisode de ce podcast. Je tenais tout spécialement à le remercier pour son engagement depuis le début de cette aventure. Cette escapade touche maintenant à sa fin. J'espère avoir réussi à te transmettre un peu de cette énergie si particulière qui traverse Montpellier. Pour poursuivre le voyage dans l'Hérault, n'hésite pas à visiter mon blog Petit Voyageur ou à me rejoindre sur Instagram et Twitter. Et si tu as aimé ce podcast, fais-le savoir en partageant l'épisode sur les réseaux sociaux et surtout en laissant un avis et 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute favorite. La France baladeuse, une série audio réalisée par Paul Angèle, pour Petits Voyageurs et En France aussi. Tu peux écouter ou réécouter ce programme sur Allô la planète et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage.